VOA Afrique, les infos. À Washington, Jacques Aristide.
Il est 17h, temps universel. Bienvenue à l'écoute de ce journal en ce vendredi 24 juillet 2015. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a été réélu ce vendredi dès le premier tour avec plus de 69% des voix pour un troisième mandat controversé. Verdict attendu des urnes après trois mois d'une grave crise politique déclenchée par la candidature du chef de l'État, Michel Joseph.
Monsieur Nkurunziza, élu en 2005 et déjà réélu en 2010, a obtenu 69,41% des suffrages exprimés lors du scrutin qui s'est déroulé mardi au Burundi, selon les résultats proclamés par Pierre Claver Ndayi Carrier, le président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. La participation s'est élevée à 73,44% selon la même CENI, alors qu'observateurs et journalistes avaient constaté une affluence relativement moyenne dans les bureaux de vote, selon l'AFP. La large victoire au premier tour de M. Nkurunziza était largement attendue, l'opposition ayant appelé au boycott du scrutin. Le chef de l'État l'emporte dans 16 des 18 provinces du pays, notamment à Bujumbura, qui lui est traditionnellement hostile, mais où votaient de nombreux militaires et policiers déployés dans la capitale le jour du vote. Principal opposant à Gaston Rwasa, qui représentait la coalition d'opposition des indépendants de l'espoir, arrive en deuxième position avec 18,99% des suffrages. Il l'emporte d'une courte tête dans les provinces du Bujumbura rural, son fief traditionnel, et de Rumonge. Sans retirer formellement sa candidature, M. Rwasa avait indiqué ne pas reconnaître la légitimité du scrutin. Derrière arrivent Gérard Ndoubwayo, candidat de l'UPRONA, Jean Minani, Frodebou Niakouri, opposition, Jacques Bigiramana, FNL, l'ex-président Domitien Ndayi Zeye, Jean de Dieu Moutabazi, mouvance présidentielle, et l'ancien chef de l'État, Sylvestre Ntibandouganya.
Et une première réaction de l'opposition burundaise après l'annonce des résultats. Comme attendu, la coalition ADC-Ikibiri les rejette en bloc. L'un de ses dirigeants, Charles Nditije.
Comme nous l'avons indiqué depuis le début, nous ne connaîtrons jamais le forcing électoral des communales et des législatives du 29 juin, tout comme on ne reconnaît pas les présidentielles du 21 et les résultats qui en sont ici, tout comme les institutions qui seront mises en place suite à cette parodie électorale. En conséquence, ces résultats, ces institutions ne nous engagent pas.
L'opposant Charles Nditije en ligne depuis Bujumbura, des propos recueillis par Eric Manirakiza. Également dans l'actualité africaine, les centaines de milliers de Centrafricains réfugiés dans les pays voisins doivent pouvoir voter aux élections d'octobre. C'est la Cour constitutionnelle centrafricaine qui le dit. Pour rappel, le Conseil national de transition avait rejeté le 30 juin les dispositions du projet de loi électorale permettant aux réfugiés centrafricains de voter, ce qui obligerait les citoyens désirant participer au scrutin à rentrer en Centrafrique. Mais pour la Cour, la non-prise en compte du droit de vote des centrafricains déplacés et réfugiés est une violation de la charte constitutionnelle. Il y a actuellement 460 000 réfugiés centrafricains au Cameroun, au Tchad, en République démocratique du Congo et au Congo-Brazzaville. Les États-Unis ont condamné fermement les attentats suicides de Boko Haram à Maroua, au Cameroun, et les multiples attentats à la bombe dans la ville septentrionale de Gombe, au Nigeria. Le point avec Camille Gros-Didier.
Dans un communiqué, le porte-parole du département d'État, Mark Turner, qualifie ces attaques perpétrées cette semaine d'horribles et aveugles. Il fustige le recours par Boko Haram à des enfants utilisés comme kamikazes. Ciblés systématiquement des civils, des femmes et des enfants témoignent, selon lui, de la brutalité insensée du groupe. Les États-Unis restent déterminés à appuyer les forces de sécurité du Cameroun, du Tchad, Niger et Nigeria dans leur guerre d'usure contre la milice, a-t-il poursuivi. Ils continueront de soutenir les gouvernements et les peuples de la région du bassin du lac Tchad dans ce combat. Par ailleurs, ajoute le département d'État dans son communiqué, les États-Unis se félicitent à l'avance d'élargir leur soutien sur une base bilatérale et à travers la Joint Task Force, La force multinationale contre Boko Haram, qui sera coordonnée par les pays du bassin du lac Tchad et le Bénin. Les attentats de Maroua et Gombe ont fait plus d'une soixantaine de morts et des dizaines de blessés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La capitale kényane était habituellement calme ce vendredi après-midi dans l'attente de l'arrivée de Barack Obama dans la patrie de son père pour une visite sous haute sécurité dans un pays durement frappé par Al-Shabaab, le groupe somalien affilié à Al-Qaïda. Barack Obama qui a quitté les États-Unis à 0h28 GMT à bord d'Air Force One effectue sa première visite dans le pays depuis qu'il est président. D'après l'AFP, une partie de Nairobi sera complètement verrouillée et l'espace aérien sera même fermé au moment de l'arrivée du président américain et de son départ dimanche soir vers l'Éthiopie et le siège de l'Union africaine. Le président américain doit prononcer demain un discours lors d'un sommet international sur l'entrepreneuriat et s'entretiendra avec son homologue kényan Uhuru Kenyatta des questions économiques, sécuritaires et de respect des droits de l'homme. Dans le cahier international, nouvelle fusillade aux États-Unis dans l'État de Louisiane. Cette fois-ci, un homme a ouvert le feu hier soir en pleine projection dans un cinéma de Lafayette. Le bilan provisoire est de 2 morts, 9 blessés. Le tireur s'est donné la mort peu après l'arrivée de la police. Sa motivation, Salwa Jaafari, n'a pas encore été déterminée.
Le tueur était assis parmi une centaine de spectateurs venus découvrir la nouvelle comédie d'Amy Schumer, Trainwreck. 30 minutes après le début de la projection, l'homme dégaine son arme et ouvre le feu. Les témoins racontent des scènes de panique, une comédie qui tourne au cauchemar.
Nous étions affolés, je n'ai pas entendu les coups de feu, mais j'ai entendu l'alarme, tout le monde hurlait et se dirigeait vers la sortie.
Le tireur, dont l'identité n'a pas été dévoilée, est un homme blanc de 58 ans. La police n'a donné aucune indication sur ses motivations et son suicide n'arrange pas les choses.
Il a été identifié.
Il a été identifié, il y a plusieurs adresses que nous sommes en train de vérifier. C'est pour cette raison que nous n'avons pas révélé son identité. Il était armé d'un pistolet semi-automatique.
Quasiment au moment de l'attentat, une chaîne de télévision britannique diffusait une interview du président Obama dans laquelle il affirmait que sa plus grande frustration à la Maison-Blanche était de ne pas avoir pu réglementer les armes à feu. Cet incident est le dernier d'une longue série, le deuxième en 3 ans dans une salle de cinéma.
Sur le plan international encore, la Turquie s'est résolument engagée dans la lutte contre l'organisation terroriste État islamique en menant aujourd'hui ses premières frappes aériennes contre les positions djihadistes en Syrie. Des premières aides qui ont fait 9 morts dans les rangs de l'EI, d'après l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme. Cela intervient 4 jours après l'attentat meurtrier attribué au groupe État islamique qui a visé la ville frontalière de Suruç. Le Premier ministre Ahmed Davutoğlu a indiqué que l'opération ne s'arrêterait pas. D'ailleurs, dans le cadre d'un raid policier à travers toute la Turquie, près de 300 membres présumés du groupe État islamique ont été appréhendés ce même vendredi. Des rebelles du parti des travailleurs du Kurdistan sont également visés. Et j'ajoute qu'après un entretien téléphonique des présidents turcs Recep Tayyip Erdogan et américain Barack Obama, Ankara a finalement autorisé Washington à utiliser plusieurs de ses bases aériennes pour mener des raids toujours contre le groupe État islamique en Syrie ou en Irak. Et puis, la crise grecque, les représentants de l'Union européenne, du Fonds monétaire international et de la Banque centrale européenne, ce sont les créanciers d'Athènes, longtemps connus sous le nom de Troïka, sont attendus dans la capitale grecque dans les prochains jours. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi la Commission européenne. Une source ministérielle grecque avait indiqué que la venue des représentants des créanciers devait se faire ce vendredi. Mais cette date n'avait jamais été confirmée à Bruxelles ou à Washington, rapporte l'AFP. L'enjeu de ce nouveau cycle de réunions est la finalisation d'ici au 20 août au plus tard du 3e plan d'aide à la Grèce dont le principe a été accepté dans la douleur le 13 juillet dernier. Et voilà, prochain rendez-vous avec l'actu dans 20 minutes. Ce sera Le Monde aujourd'hui. C'était Jacques Aristide à Washington. Bonne soirée, bon week-end sur VOA Afrique. Take care.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.